Priorité Santé, Claire Hédon.
Bonjour à tous. Vous le savez, dans Priorité Santé, nous parlons souvent des médecines alternatives et dans ce cadre, nous avons déjà évoqué le travail des tradipraticiens. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un homme au parcours particulier. Il est à la fois médecin et tradipraticien. Le docteur Moussa Maman est né au Bénin. Il a suivi ses études de médecine à Dakar avant de venir poursuivre sa formation en France. Il pratique maintenant les deux médecines au Bénin et à Paris, où il a créé l'association URACA, unité de réflexion et d'action des communautés africaines. Et nous allons voir que les thérapies traditionnelles africaines peuvent être complémentaires de la médecine occidentale. Docteur Moussa Maman, bonjour.
Bonjour.
Votre double cursus m'intrigue, vous êtes médecin et tradipraticien. Par quoi avez-vous commencé? Par les études de médecine ou par celles de tradipraticien?
C'est une très longue histoire. Bon, je suis né sous un arbre, à côté de la mare sacrée, sur une petite île du fleuve Niger. Là, j'étais promu par mon grand-père pour être guérisseur. Donc, du coup, il y a eu un conflit qui était né entre mon grand-père et mon père. Parce que mon père voulait absolument que je fasse l'école coranique, aller à l'école pour apprendre à lire le Coran et devenir marabout. Et mon grand-père ne voulait pas du tout. Du coup, il me cachait, il m'amenait dans la grotte pour m'apprendre
des choses. Parce que votre grand-père était tradipraticien,
enfin,
était guérisseur.
Ah oui, c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a formé. Et ainsi donc, le conflit s'amplifiait. Et mon grand-père, un jour, quand j'avais l'âge de 7 ans, 7-8 ans, il a vu venir un commandant de cercle qui s'appelle Moroti. Donc, j'ai venu dans mon village pour chercher, n'est-ce pas, des taxes sur le poisson parce que nous sommes des pêcheurs. 3 semaines plus tard, il m'a confié à ce blanc, comme il le dit, je vais te confier au blanc. Comme ça, tu vas apprendre des choses du blanc, tu ne seras pas marabout, tu ne seras pas guérisseur. Et c'est ainsi qu'il m'a amené à l'école. Cette année-là, on a créé une école qui est à quelques 7 kilomètres de mon village sur le fleuve. J'avais envie aussi d'aller à l'école. Je traversais seul, je prenais une pirogue, j'allais de l'autre côté de la berge, marcher pour aller à l'école.
À 7 kilomètres, à 7 ans. Kilomètres.
Et seul. Voilà, c'est ainsi qu'à partir de là, je suis admis ce qu'on appelle le certificat d'études primaires et élémentaires. Je ne pouvais plus aller plus loin que mon village parce que mon père ne connaissait pas, mon grand-père ne connaissait pas des gens à l'intérieur du Bénin. J'étais obligé d'aller du côté du Niger. Et du Niger, j'ai continué mes études. Après, je suis allé à Dakar. De Dakar, je suis venu ici en France.
Alors, Dakar, vous avez fait quoi là? Des études de médecine classique?
À l'école, c'est à Dakar que j'ai fait ma formation médicale.
Pourquoi vous avez eu envie de faire médecine?
Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas l'expliquer.
Vous étiez bon en classe, donc on vous a dit, allez, va faire
Non, pas du tout. J'avais plutôt choisi autre chose. Je voulais être agronome. Il y avait 2 options que j'avais voulu faire. Soit être un pilote de ligne ou agronome. Mais bon.
Vous êtes devenu médecin.
Voilà. Et en France, je suis rentré à Paris 13. Et de Paris 13, un jour, je lisais les cahiers de Bobigny. Et j'ai vu dans une phrase, dans les cahiers de Bobigny, une phrase qui dit « À nous la psychanalyse, à eux la magie ». Ça, ça fait un tilt dans ma tête. Ça m'a poussé à aller voir qui a écrit cette phrase. C'était Toby Nathan.
L'ethnopsychiatre Toby Nathan.
Et c'est là que j'ai demandé à faire la formation avec Toby pendant 5 ans.
Jusque-là, vous aviez fait des études de médecine entre guillemets classiques. Vous ne vous étiez pas du tout orienté vers la psychiatrie, entre autres.
Non, pas du tout. Mais cependant, j'avais quand même eu un moment à travailler en psychiatrie. Parce que d'abord, au cours de ma formation, on me prenait pour un fou. Donc, à un moment, on m'a amené en psychiatrie pour dire « occupe-toi des malades mentaux ». Comme ça, vous allez vous entendre.
Pourquoi on vous prenait pour un fou?
Ben parce que je refusais les normes classiques qui me pesaient. J'avais envie de voir autre chose que ce qu'on donne comme norme. J'ai bien compris après qu'au fait, ces cohérences, ça veut dire que nous sommes tous fous. Mais bon, comme la masse a accepté ce système, ça ne dérange pas, ça rassure. Hein. C'est pour ça peut-être qu'on me prend pour un fou.
Vous êtes peut-être le seul qui n'est pas fou, c'est ça que vous voulez me dire?
Je ne sais pas. Cependant, même maintenant, les gens sont étonnés que je quitte Paris pour aller m'installer dans ma cambrousse, là-bas, sous les arbres, sous les manguiers, au lieu de rester, par exemple, à Cotonou ou à Parakou ou à Niamey ou dans une grande ville plus proche, Malanville ou Gaya. Mais moi, je préfère mon village parce que le village qui a fait ce que je suis, et je pense qu'il n'y a que moi, en ce moment, pour l'instant, qui peut peut-être apporter quelque chose à ces villageois. C'est pour ça que
Donc vous vous êtes retrouvé à Paris, vous avez fait vos études avec Toby Nathan, donc c'est là que vous vous êtes orienté vers l'ethnopsychiatrie. Et à partir de quel moment vous avez, je dirais, retrouvé vos racines de tradi praticien? Tout ce que vous avez appris votre grand-père pendant tout ce temps-là, c'était en sommeil, vous aviez tout oublié, non?
Je me trompe. C'est pas que j'ai oublié, mais j'ai occulté. J'ai occulté parce que ça ne peut pas aller avec quelqu'un qui veut apprendre le savoir, le savoir occidental. Pour moi, la médecine traditionnelle, c'est une connaissance. Connaissance, je suis né avec. Et la médecine occidentale, pour moi, c'est un savoir, voir ça. Donc, je pense que je suis venu voir ça, voir cette médecine-là, qui m'a permis de comprendre l'utilité de ma médecine qu'on m'a apprise depuis que j'étais petit. Parce que je suis né dedans. Donc, ça ne me dérange pas du tout de faire les deux. Dès l'instant que, selon les pathologies et les patients qui se présentent, c'est le patient qui m'oriente à choisir soit la médecine traditionnelle ou la médecine moderne. Parce que le médecin traditionnel dit « je ne guéris pas, je soigne ». Soigner, c'est mon devoir. Mais guérir, je laisse ça aux esprits. Voilà comment le médecin traditionnel raisonne.
Les vrais médecins traditionnels. Parce que justement, il y a eu une déviation de ces médecins
beaucoup,
traditionnels.
Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment dans la médecine traditionnelle, parce que n'importe qui se lève pour dire qu'il est guérisseur traditionnel, alors qu'en réalité, il faut une très bonne formation, pas moins de 7 ans. Et même après la formation, il faut être contrôlé par le maître pendant un certain nombre d'années.
Mais comment justement vous avez pu être formé, puisque toute la journée vous étiez à l'école? Comment il a fait votre grand-père pour vous former? Le soir en rentrant de l'école?
Le soir en rentrant de l'école, souvent il m'amène dans la grotte. Il m'apprend les choses. Il y a des moments.
Et il vous apprend quoi? L'utilisation des plantes?
Oui, l'utilisation des plantes. Et ça pendant 8 ans. 8 ans après, j'avais, je crois, 16 ans, il est mort. Mais ma grand-mère a pris le relais.
Vous êtes parti faire vos études à Dakar. Vous ne dites pas oublier, mais occulter tout ce que vous aviez appris.
J'ai tout occulté. Cependant, chaque vacances, quand je rentre au village, les autres me font appel pour venir travailler avec eux. Les tradis praticiens du coin. Mais on fait beaucoup plus, plutôt la thérapie qui soigne, dit-on, les maladies mentales. Et ça, tous les soirs, quand je suis au village, on fait des cérémonies, je participe. Actuellement, j'ai un collègue, lui, on avait commencé l'école ensemble, malheureusement, il n'a pas pu continuer. En ce moment, c'est lui qui est le maître de cérémonie. Si je suis absent, c'est lui qui me remplace dans le village.
Aujourd'hui, dans Priorité et Santé, je reçois le docteur Moussa Maman, ethnopsychiatre et fondateur d'URACA, unité de réflexion et d'action des communautés africaines. Docteur Moussa Maman, vous partagez votre vie entre Paris et le Bénin. Paris, où vous vous occupez de cette association URACA, dont on va parler tout à l'heure, et le Bénin. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez monté en fait un centre de soins, on peut dire?
Alors,
ça, au Bénin?
Au Bénin, on a créé un centre de soins, ça fait bientôt 20 ans. Même maintenant encore, on amène les médicaments d'ici pour soigner les gens sur place.
Un centre de soins, on utilise quelle médecine?
On fait les deux. On fait les deux.
Donc il y a des médecins dans ce centre de soins ou des infirmiers?
Il y a des infirmiers, il y a des médecins. D'abord, le premier médecin, c'est moi. Et c'est un centre où on forme également des médecins hospitaliers français qui viennent sur place, qui participent à nos cérémonies de soins dans le cadre de la formation. Et en même temps, on fait venir, parce qu'on fait un partage nord-sud, on fait venir des guérisseurs traditionnels du Bénin et du Niger, qu'on choisit selon quand même des critères très rigoureux, et on les fait venir ici pour participer aux consultations d'ethnomédecine et d'ethnopsychiatrie dans les hôpitaux.
Quand vous dites ici, c'est à Paris.
Ici à Paris. Et dans le centre qu'on a créé au Bénin, c'est le Nord-Bénin, à l'extrême nord, au bord du fleuve Niger. Donc dans ce centre-là, on pratique la médecine traditionnelle et la médecine dite moderne. Alors, les malades, quand ils viennent, on les soigne. On prend les constantes, on fait classiquement ce qu'il fallait faire. Une fois que le malade est soigné et qu'il se dit guéri, dès l'instant qu'il demande autre chose, parce que souvent, c'est le patient qui demande. On ne le propose pas tout de suite.
Et c'est là que la médecine traditionnelle intervient.
On met la médecine traditionnelle en jeu. Mais il y a des pathologies qui sont purement pour la médecine traditionnelle. Et ce que j'ai dit tout à l'heure...
Par exemple
l'exemple de maladies mentales, on est obligé de passer par le système que j'appelle la mise en couvade, qui consiste à faire de sorte que le malade renaisse une seconde fois. parce qu'il y a toute une symbolique autour de la prise en charge du malade. Par exemple, mettre quelqu'un dans la case ronde. La case ronde est le symbole de l'utérus maternel. Et on lui prépare le placenta pendant que le malade est à l'intérieur de la case ronde. On prépare le liquide amniotique. Tout ça, c'est symbolique. Hein. Et au bout d'une semaine ou deux semaines, le malade renaît une seconde fois, ce qui lui permet de reconstituer son histoire autour de son arbre généalogique. Vers la fin, bon, souvent il est tressé, si c'est un homme, il est rasé, et puis bon, on l'accompagne chez lui en groupe. Bien, il y a aussi ce système, moi je l'appelle un système d'endorcisme, parce qu'on ne fait pas de l'exorcisme. Au contraire des curés ou des prêtres qui font chasser le diable, nous, on nous a toujours appris en médecine traditionnelle que le corps est un magma de lumière. Donc le corps peut capter des signaux. Alors dans ce cas-là, quand il y a une perturbation à l'intérieur du corps, on purifie ces magmas de lumière pour que la force ou l'énergie qui est à l'intérieur reste en harmonie avec le corps. Et donc on ne fait pas de l'exorcisme, on fait de l'endorcisme. On dit, vous allez vivre avec cette force qui est à l'intérieur de vous, mais on demandera à la force de ne pas perturber le corps. Mais c'est des savoir-faire qu'il faut, ça ne se fait pas en un jour, ça ne peut pas s'expliquer aussi à la radio.
C'est ça, docteur Moussa Maman, vous imaginez bien que pour nous c'est un peu compliqué à comprendre, ça touche à des concepts qu'on ne comprend pas forcément, mais est-ce que par ce système-là, en utilisant ces deux médecines, vous obtenez finalement de meilleurs résultats que ce qu'obtiendrait, je dirais, un psychiatre français par exemple?
Je pense que si on continue à le faire, c'est parce que ça marche. Ça marche, on a assez de malades quand même qui sont satisfaits. Bon, il arrive certains patients qui nous arrivent un peu, surtout chez les dépressifs, parce qu'il y a aussi la dépression en Afrique. Hein. Chez les dépressifs, on prend le temps d'abord de tasser un peu leur dépression avant de parler de quoi que ce soit.
C'est-à-dire tasser leur dépression, c'est dans ces cas-là prendre des médicaments classiques.
Voilà, classiques, hein, c'est ça. Les antidépresseurs, on les met sous antidépresseurs pendant un certain temps et on leur demande, bon, revenez l'année prochaine ou dans 6 mois.
Et quand ça va mieux, on peut faire ce travail.
Voilà, on peut faire le travail. Voilà un exemple de syncrétisme entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne.
C'est important ce que vous dites là, parce que vous continuez à utiliser la médecine occidentale. C'est pour vous un appui, ça reste important, vous ne la dénigrez pas. Et par exemple, vous participez à des campagnes de vaccination. Vous considérez que ça, c'est aussi quelque chose de très important.
Ah oui, tout à fait, parce que les deux médecines ne sont pas incompatibles. On a ce qu'on appelle, même si ça ne se dit pas ici en France, mais là-bas, nous, on l'appelle la médecine foraine, qui consiste à aller voir les hameaux de pêcheurs, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Donc on se déplace en pirogue motorisée d'un hameau à un autre pour soigner les gens, soigner les femmes enceintes, les enfants.
Les vacciner, justement.
Les vacciner. Hein, et puis même, on fait quelquefois avec une sage-femme, on fait des consultations prénatales. Parce que, bon, la médecine moderne, ça, c'est pour tout le monde.
Et ça a été une vraie avancée. Hein?
Voilà. Oh. Et donc je pense qu'on ne peut pas se cantonner seulement à la médecine traditionnelle en disant que bon, je peux utiliser les plantes. Non, moi je pense qu'il faut faire les deux. Dès l'instant que bon, ce n'est pas incompatible pour celui qui connaît. En plus, moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés qu'on peut faire médecine traditionnelle et médecine moderne. Pourtant, il y a des médecins qui sont acupuncteurs. Même si l'acupuncture, il suffit de savoir mettre des aiguilles à droite, à gauche, sur des méridiens. C'est une recette peut-être plus simple. Que la médecine.
Donc personne ne s'étonne de ça. Pourquoi s'étonnerait-on qu'on utilise la médecine traditionnelle africaine et la médecine moderne?
Oui. Et puis il y a des médecins quand même qui sont à la fois psychiatres et psychanalystes. Il y a aussi des médecins généralistes qui sont des psychanalystes. Ça ne me dérange pas de faire les deux médecines parce que de toute façon, ce n'est pas incompatible. Il suffit tout simplement de savoir faire.
RFI, Claire Edon.
Vous écoutez Priorité Santé, aujourd'hui consacrée au parcours d'un homme étonnant, le docteur Moussa Maman, médecin, ethnopsychiatre, mais aussi tradipraticien. Il a créé en France l'association URACA. Docteur Moussa Maman, vous êtes en contact avec de nombreux tradipraticiens en Afrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas que cette profession soit un peu plus structurée?
Pour le besoin de la cause, je crois qu'il faut organiser les guérisseurs traditionnels. Parce que si vous allez dans une grande ville, n'importe qui peut se lever pour dire qu'il est guérisseur traditionnel. Or, dans un village, tout le monde connaît tout le monde.
Et on sait qui a été formé.
On sait qui est guérisseur. Donc c'est pour cela que je pense qu'il va falloir créer soit un ordre ou une sorte d'association ou une sorte de fédération des guérisseurs dans chaque pays et dans chaque région afin qu'on puisse quand même les organiser et puis éventuellement leur apprendre des choses que certaines pratiquent. C'est un peu douteux, certaines pratiques chez certains guérisseurs. Parce que quand on entend des guérisseurs ou quand on voit des guérisseurs qui mettent sur leur plaque « je soigne le sida », ça franchement, je pense qu'il y a besoin de voir certaines pratiques.
C'est ça. Par exemple, sur le sida, un exemple concret, vous dites qu'il faut prendre les antirétroviraux. C'est clair, c'est le seul moyen de traitement qui existe. Mais rien n'empêche effectivement d'aller vous voir en tant que tradit praticien pour être aidé.
Oui, alors là...
Qu'est-ce que vous apportez justement à quelqu'un qui a le sida, par exemple?
Ce que nous apportons, surtout ici en France, dans les hôpitaux, c'est qu'on aide les médecins hospitaliers à comprendre le discours de leur malade. Parce que quand un médecin devant lequel un malade dit « je suis possédé, vous avez vu du virus dans mon sang, ce virus, c'est vrai que c'est dans mon sang que vous l'avez vu, mais ce n'est pas mon sang, c'est le sang, je sais pas, de ce sorcier ou de quelque chose qui est à l'intérieur de moi. » Mais le médecin, il va dire qu'il délire.
Le médecin, il comprend rien, là.
Ben, évidemment. Et là, nous, on ne dit pas que c'est du délire. C'est sa manière de dire son mal-être. Comment nous allons faire? Nous demandons au malade, vous allez faire confiance à votre médecin qui vous soigne. Lui, il a vu quelque chose qui est le virus. C'est lui seul qui est capable de s'en occuper.
Donc, tu vas prendre les médicaments que te donne le médecin.
Voilà.
C'est ça.
On lui demande de suivre le traitement du médecin et rigoureusement et de faire un suivi médical régulier. Mais nous, en tant que guérisseurs traditionnels, nous allons nous occuper de ce qui est à l'intérieur qui le possède. Ça, c'est le travail que nous faisons. En fait, on ne fait pas grand-chose. Il suffit tout simplement d'accepter...
De l'écouter.
De l'écouter, que le malade comprenne qu'autour de lui, ceux qui s'occupent de lui ont compris qu'il a ce problème-là, la relation s'installe. Ce n'est pas du tout compliqué.
Finalement, vous faites comme le psychiatre, pas grand-chose, écoutez.
Voilà.
C'est ça?
Écoutez, ne rien dire ou aider à comprendre. Et souvent aussi, on demande aux malades ces choses-là, quand il s'agit souvent des Africains, hein, parce que dans chaque famille africaine, qu'on soit professeur, qu'on soit médecin, qu'on soit président de la République, qu'on soit député, qu'on soit ministre, dans chaque famille africaine, quand ça ne va pas, on va trouver toujours une cause lointaine à l'intérieur de la famille ou très loin dans l'arbre généalogique de la famille.
Irresponsable. Ce qui peut parfois faire des dégâts, d'ailleurs.
Ah oui. Et là, on demandera souvent aux malades d'essayer de voir à l'intérieur de son arbre généalogique, est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose qu'on devait faire? Bon, souvent, est-ce que, bon, à la mort du père, on n'a pas été sur la tombe du père? Est-ce que le père n'est pas en train de hanter le corps ou quelque chose comme ça? Alors, très souvent, les gens reviennent sur leur pas et ils reconstituent leur histoire pour reprendre confiance en eux-mêmes et se faire suivre au niveau des hôpitaux. C'est comme ça que ça passe, à peu près. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas que des Africains qu'on soigne. Hein. Il y a des Sud-Américains, il y a des Vietnamiens, il y a des Tamouls, il y a des Chinois qui viennent aussi nous voir, justement, dans notre manière de prendre en charge les gens.
Et vous les comprenez?
On les comprend bien, parce que c'est quoi la compréhension? C'est de lui montrer qu'il y a quelque chose peut-être qu'il a oublié, qu'il peut faire lui-même.
Et qui est dans sa culture.
Qui est dans sa culture. Mais bon, ce n'est pas un seul entretien...
Qu'on résout tout.
Voilà, non, il y a 3-4 quelquefois, on fait un an d'entretien quand même.
Docteur Moussa Maman, merci. Je précise que ces consultations d'ethnopsychiatrie ont lieu soit à Uraka, au siège de l'association, soit dans un certain nombre d'hôpitaux parisiens qui ont ouvert leurs portes à ce type de consultation. Il s'agit de l'hôpital Avicenne, Saint-Louis, Tenon, Bichat-Claude-Bernard ou encore Lariboisière. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous conseille le site internet de l'association Uraka, uraka.org. Au revoir à tous et à demain.